Alors, parmi les sciences et parmi les objets des sciences, donc ceux que les sciences traitent, il y a au moins une science et au moins un objet qui ont un statut particulier pour les philosophes. Évidemment, cet objet et cette science, c'est la biologie et le vivant. Alors, pourquoi est-ce un objet particulier ? Parce que d'abord, le vivant, c'est ce qui se présente comme une expression de la matière et qui pourtant est en même temps un véritable défi aux lois de la matière. Si bien que tout un courant de philosophie va chercher à montrer que l'être vivant ne peut pas se résoudre aux lois physiques, dans les lois physiques, et qu'il y a en lui quelque chose qui est au-delà, qui est d'une nature spirituelle. Alors, la matière et l'esprit sont deux réalités opposées et qui ne se pensent très souvent que l'une par rapport à l'autre. Et on pourrait même presque dire que les deux, la matière et l'esprit, sont chacune en rivalité avec l'autre et que cette rivalité entraîne un débat sur ce qui est vraiment réel, sur ce qui est au fondement du réel. Pour les uns qu'on qualifie, vous le savez, de matérialistes, ce qui est vraiment réel, c'est la matière, et pour les autres, les spiritualistes, c'est l'esprit. Donc là, pour l'instant, je ne vous apprends pas grand-chose. Au milieu, il y a un objet particulier, une nature particulière, qui fait justement les soins des philosophes, c'est bien sûr la nature de l'homme. Alors, pour les matérialistes, la métaphysique est une illusion. Pourquoi ? Tout simplement parce que tout, absolument tout, est explicable à partir de l'unique réalité de la matière et de ses lois, y compris l'homme, y compris ses manifestations, y compris aussi tout ce qui fait l'humain en l'homme, c'est-à-dire la conscience, la liberté, l'émotion esthétique, l'égalité morale, etc. Tout cela ne serait qu'une complexification, à un degré ou à un autre, de la matière. Tout le reste serait illusion. Par exemple, alors j'ai déjà pris cet exemple, je ne vais pas en rajouter dans une de mes précédentes conférences, mais par exemple, pour certains matérialistes, la pensée, la conscience ne sont que des processus biochimiques complexes, ou parfois des affirmations égoïstes de processus naturels, et qui serait déterminé. Alors on y reviendra, pour l'instant c'est un peu compliqué, mais l'exemple que je choisis dans ces cas-là, c'est le fameux baiser de l'amant, qui, d'une façon matérialiste, se réduirait uniquement à un bombardement de particules. Peut-on aller jusqu'à considérer que le baiser de l'amant est un bombardement de particules ? C'est effectivement ce qu'un courant de pensée fait. Les spiritualistes, au contraire, évoquent l'irréductibilité de la conscience et du vivant à tout ce qui est matériel, et certains vont même jusqu'à affirmer que la réalité ultime, c'est l'esprit. L'inerte, par exemple, pour Bergson, un philosophe que nous serons amenés à rencontrer, l'inerte n'est qu'une concession de l'esprit à la matière. Donc, le vivant est au cœur de ce débat entre matérialiste et spiritualiste. C'est même un objet privilégié, puisqu'il y a au moins deux façons d'en rendre compte. Il y a une façon très propre au matérialisme qui s'appelle le mécanisme. En gros, le mécanisme, c'est le matérialisme, mais simplement appliqué aux questions de la biologie. De l'autre côté, à l'autre bout, du côté du spiritualisme, on a un courant qui définit le vivant à travers le vitalisme. Le vitalisme est donc un spiritualisme qui est appliqué aux mêmes questions. Alors, incontestablement, aujourd'hui, la philosophie moderne, en général, a tendance à penser que, justement, il faut donner raison plutôt au matérialisme. Et pourtant, nous le verrons, le spiritualisme n'est pas mort. En revanche, on peut tout de suite constater qu'il y a deux grands écueils pour chacune des perspectives. Enfin, un pour chaque. Accepter, comme le disent les matérialistes, et ce sera un petit peu notre problème ce soir, de tout réduire à la matière, faire du vivant un ensemble de processus matériels, c'est On verra les raisons, évidemment. C'est un problème parce que certaines manifestations semblent résister à une telle approche. Mais d'un autre côté, le vitalisme a tendance à poser des questions, mais sans forcément amener un traitement scientifique. Donc à refuser qu'on puisse faire une science du vivant. Il y a aussi une troisième voie qui consisterait à conjuguer un peu les deux, mais cette voie est un peu curieuse, nous l'examinerons quand même. Donc tout cela entraîne finalement une double question. Peut-on concevoir une science du vivant ? Et une telle science, si elle est concevable, peut-elle se passer d'une idée de finalité naturelle ? On verra précisément ce que c'est, mais c'est le cœur de la question. Est-ce qu'on peut supposer que la nature, à un quelconque degré, a une forme de finalité, a une forme de but ? C'est tout le problème. Aujourd'hui encore, même au niveau des spécialistes, alors on verra Darwin, on verra Lamarck un petit peu dans les grandes lignes, et on verra surtout qu'aujourd'hui, le combat n'est pas fini. On a le néo-lamarckisme, le néo-darwinisme, pardon, et on a de vrais combats. Toujours autour de cette question, y a-t-il une finalité naturelle ? Est-ce qu'on peut concevoir que la nature agit dans un certain sens ? En bref, le vivant est-il réductible aux lois du mécanisme ou peut-on considérer qu'il y échappe en partie ? Donc il s'agira d'examiner les écueils respectifs des deux grandes conceptions que nous venons simplement de dresser à grandes eaux. Trois directions seront donc proposées ce soir. Il s'agira d'abord, assez simplement, de saisir les enjeux réciproques du matérialisme et du spiritualisme, parce que là je suis allé évidemment un peu vite, afin de saisir le débat dans une perspective large. Et puis, nous aborderons le cœur du problème en nous posant la question de la nécessité ou non d'admettre une forme de but inhérent à la nature elle-même, tout en nous demandant si la science peut s'accommoder d'un tel finalisme. Et enfin, nous nous demanderons jusqu'où la théorie de Darwin peut répondre aux questions qui lui sont posées, et puis si le temps ne nous presse pas trop, on en viendra à quelques enjeux bioéthiques qui découlent de toutes ces perspectives. Alors, commençons par évoquer les enjeux du spiritualisme et du matérialisme. Le matérialisme d'abord. Donnons-lui la priorité, puisque c'est actuellement un des courants de théorie qui remporte l'adhésion. En général, pour le matérialiste, la réalité est entièrement composée de la matière et de ses lois. Les êtres vivants ne sont donc absolument pas des exceptions. Il n'y a aucune exception d'ailleurs, puisque tout peut s'expliquer par les lois physiques. Tout ce qu'on appelle esprit chez l'homme n'est par conséquent que le résultat nécessaire du jeu qui se retrouve absolument partout entre la nécessité et le hasard. Et à partir de là, on légitime la démarche scientifique elle-même. Qu'est-ce que c'est qu'une investigation scientifique ? Eh bien, c'est essayer finalement de ramener chaque phénomène à ses causes. La cause qui l'explique. On essaie de trouver une cause antérieure dans la réalité du monde, et cette cause, on lui donne une identité, c'était dur à sortir, je ne sais pas pourquoi, une identité physique, chimique, biologique, etc. Ça veut dire aussi qu'il n'y a aucun principe transcendant. On refuse absolument toute forme, justement, de transcendance, d'aide extérieure, d'intervention. Vous savez qu'il y a eu d'ailleurs une crise monumentale autour de toutes ces histoires, qu'on peut grosso modo faire remonter à l'affaire Galilée, hein, le moment où d'un seul coup, on décide, au nom de la science, de chasser toute forme de finalisme dans la nature. Affaire Galilée, donc, il y avait Copernic avant lui, bien sûr, mais Galilée, d'un seul coup, a moyen de prouver, en tout cas d'étayer cette thèse qui va absolument tout changer, que la Terre n'est pas au centre de l'univers. Ce qui ne veut pas dire que Dieu n'existe pas, rassurez-vous. Ce qui veut dire simplement qu'on ne peut pas le montrer, le prouver, à partir du mouvement des planètes, comme on le pensait depuis 5000 ans. Ce qui veut dire aussi qu'il y a des enjeux métaphysiques incroyables, mais ce qui va également donner une sorte de coup d'envoi de la science, telle qu'elle se pratique la science moderne, c'est-à-dire on chasse tout horizon finaliste et on essaye de réduire entièrement la nature à ses lois. Voilà. Donc on chasse volontairement toute autre forme d'explication. C'est pourquoi Auguste Comte nous dit que une bonne théorie, matérialiste donc, puisque Auguste Comte fait partie, à travers son mouvement du positivisme, des scientifiques purs et durs, enfin en tout cas ceux qui défendent une vision scientifique du monde. Donc le matérialisme est une explication du supérieur par l'inférieur. Le supérieur, c'est simplement, en gros, de la matière complexifiée. Une pensée, décidément les P, j'ai du mal à ne pas les appuyer trop, une pensée, c'est, encore une fois, explicable par un substrat matériel, biochimique. Donc le supérieur, par exemple la matière vivante, par rapport à la matière inanimée, n'est pas nié, bien sûr, mais enraciné dans une réalité matérielle. Donc la psychologie humaine peut se réduire à la sociologie, par exemple. Donc la sociologie, c'est ce qui va, à partir des comportements humains, dresser une série de statistiques. Donc, c'est déjà plus scientifique. Et puis, la sociologie elle-même, on pourrait finalement l'expliquer par la biologie. La biologie vient de la physiologie, et la physiologie vient de la chimie. Donc quand vous remontez, le supérieur c'est le plus complexe, mais vous pouvez tout à fait refaire la ligne vers l'inférieur, c'est-à-dire simplement le plus simple. Mais au final, on a un substrat matériel, ou sinon on invente des entités qui n'existent pas, ou en tout cas qui sont totalement inobservables, dans ce point de vue bien sûr. Donc, après on peut faire les mélanges qu'on veut, la sociologie ça peut être réductible à l'économie, hein. L'économie finalement c'est un peu gouverné par les lois de la biologie, l'instinct de survie, etc., la présence de l'individu, bref. La biologie elle-même, c'est des hormones, et encore une fois, on en arrive à ces thèses, actuellement défendues par une poignée de scientifiques, pas tous quand même, que les émotions, mesdames et messieurs, que vous ressentez, ne sont autres que des compatibilités phéronomiques. Vous avez des phéromones qui sont sécrétées, et puis quand il y a une compatibilité qui se fait, hop, pouf, vous voyez de l'attirance pour telle personne qui peut-être par exemple ne convient pas à votre entourage, vous ne savez pas expliquer pourquoi. On pourrait dire, on pourrait donner toujours tout un tas de raisons, mais la vraie raison finalement, elle est biologique. Voilà ce que disent des biologistes, mais je ne leur jette pas du tout la pierre, hein, des biologistes qui ont décidé que il n'y avait pas lieu de finalement fantasmer sur des entités qui ne sont pas observables et dont on n'a aucune idée. Alors, vous allez me dire, mais le matérialisme et la science, c'est pas tout à fait la même chose, et c'est vrai. Et pourtant, on peut dire que très souvent, on les assimile et que la plupart des philosophes ou sociologues ou autres qui se disent matérialistes se considèrent eux-mêmes comme des scientifiques. Marx, par exemple, enfin en tout cas, les marxistes ont voulu faire du marxisme une véritable science. Alors, évidemment, aujourd'hui, ça paraît étonnant, mais jusque dans les années 60 à la rigueur, on était persuadés, beaucoup en tout cas, qu'il y avait là des bases tellement sociologiques, des statistiques tellement complexes, qu'on pouvait tout à fait prétendre à une science. En tout cas, les communistes le disaient. Freud, pareil. Alors, là encore, il y a des débats, mais Freud présente évidemment sa théorie comme une science. Et l'essentiel de sa théorie a une base physiologique. Quand on lit la métapsychologie, etc. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Freud détestait absolument la philosophie, même s'il s'en est incroyablement inspiré. Freud était quelqu'un d'extrêmement cultivé, il connaissait très bien la philosophie, et il a toujours nié la parenté entre la psychanalyse et la philosophie, mais pour se défendre, justement, de toute possibilité de rattachement à la métaphysique. Donc il avait évidemment lu Nietzsche, il avait évidemment lu Schopenhauer, d'ailleurs certains disent qu'il aimait beaucoup ses penseurs, mais il s'en est défendu pour justement garder cet aspect scientifique. Parce qu'au-delà du matérialisme, au-delà d'une vision physiologique, on ne voit pas trop ce que pourrait représenter justement l'esprit. Par ailleurs, le matérialisme, et ça c'est peut-être l'essentiel, est par essence athée. Puisque justement, il a pour but d'éradiquer les superstitions et les illusions, de nous confronter au réel. Donc c'est vraiment une entreprise de démystification. On dénonce les croyances religieuses, les croyances métaphysiques, on dénonce l'imaginaire, on dénonce les mondes, les autres mondes, et on essaye de recentrer l'homme sur la vie terrestre. C'est par exemple, alors c'est pas nouveau, hein, évidemment, on a déjà des traces de tout cela dans l'Antiquité, avec notamment, évidemment, Épicure. Épicure, qui n'était pas du tout ce philosophe qui aimait se baffrer, comme on en fait trop souvent. Non, pas du tout. Au contraire, d'ailleurs, il prenait l'équilibre des plaisirs, mais pour rester dans le plaisir. Mais là, ce n'est pas la question. Épicure, première véritable théorie systématique matérialiste qui considère que la totalité du monde est composée d'atomes et de vide, parce qu'il faut bien que les atomes circulent. Mais tout est composé d'atomes, et du même coup, c'est la bonne nouvelle de ce soir, vous n'avez pas à craindre la mort, nous dit Épicure, puisque de toute façon, vous ne mourrez pas. Non pas parce qu'il y a une vie après la mort, Épicure ne le pense absolument pas, mais parce que vous n'en ferez jamais l'expérience. Alors, ça vous paraît être un sophisme, mais au fond, c'est pas idiot. C'est l'idée que si je ne suis qu'un composé de corps, de corpuscules élémentaires qui, agencé d'une certaine façon, me donne la vie, quand cette vie disparaît, il n'y a juste plus rien. Donc vous n'en souffrez pas et vous n'en faites même pas l'expérience. Donc c'est plus vous. Si vous êtes mort, c'est plus vous, c'est un cadavre. Donc c'est pas vous. Et jusqu'à ce que vous soyez un cadavre, vous vivez. Donc vous ne mourrez pas. Il y aura un corps après vous. Bon, c'est pas très rassurant non plus. Mais voilà en gros une façon de se délivrer d'une superstition. Non pas, Épicure ne nous dit pas, il y a un dieu, il y a une vie, bon, il dit qu'il y a des dieux, mais qui sont indifférents, mais il y a vraiment l'idée de tout réduire à la matière et de dire, cela dit, ce n'est pas pour autant qu'il faut en être triste ou affecté. En revanche, c'est l'occasion, justement, de se confronter à ce qu'est la vie terrestre telle qu'elle est, et ne pas se perdre dans des illusions pas possibles. C'est évidemment aussi le projet de Marx. Hein. Vous connaissez la fameuse formule, l'opium du peuple que représenterait la religion. L'opium parce que, justement, une vision complètement éthérée, qui ne repose sur rien, qui n'a pas les pieds sur terre, dirait Marx, eh bien, une vision des choses comme ça vous enferme et vous empêche tout simplement de vivre. Parce que, nous dit Marx, vous ne pouvez pas vivre votre responsabilité, vous vous laissez diriger par des illusions et vous n'avez simplement pas les pieds sur terre. Donc, voilà exactement le type de théorie que le matérialisme cherche à évincer. Volonté de ramener l'homme à ses véritables nécessités. Le spiritualisme, de l'autre côté. Alors déjà, ce qu'on peut noter, puisque c'est intéressant, c'est que le spiritualisme est bien, bien plus tardif que le matérialisme. Bien plus tardif, je ne vous dis même pas à quel point, enfin si, je vous le dis, 19e siècle, c'est-à-dire qu'avec Ravesson et Bergson, ou la philosophie allemande et le romantisme, là, on a véritablement les premiers vrais courants spiritualistes. On peut en distinguer deux formes, un sens faible, un sens plus fort. Dans un sens faible, le spiritualisme, c'est simplement l'idée que l'esprit est irréductible à la matière. Il y a quelque chose qui résiste dans l'esprit et qui ne se retrouve pas dans simplement un composé de particules. Dans un sens fort, c'est l'idée que le matériel n'a de sens que par rapport au spirituel. Donc au sens fort, le spiritualisme, c'est l'affirmation que tout ce qui est, tout ce qui se manifeste dans le monde en tout cas, est la production en dernier recours, et quelles que soient les apparences, de l'esprit, qui serait la seule réalité ultime et active. La matière, c'est pas seulement le contraire de l'esprit, c'est alors sa possibilité de réalisation. L'esprit, pour se réaliser, aurait besoin de la matière. L'esprit, votre esprit, aurait besoin d'un corps, d'une incarnation, pour justement qu'il y ait une réalisation. Donc pour le spiritualiste, au contraire, tout est explicable par le supérieur. Évidemment, aussi, il y a une ouverture vers la religion. Et d'ailleurs, très souvent, les spiritualistes, qui n'étaient pas forcément des chrétiens ou des croyants au départ, le sont devenus. Bergson, par exemple, n'était pas foncièrement croyant, et finalement, il l'a été de plus en plus, en tout cas, philosophiquement, son dernier écrit l'était profondément, et on peut multiplier à l'infini, à l'infini peut-être quand même, Maine de Biran, plein d'autres auteurs, qui d'un seul coup, à travers le mouvement spiritualiste, vont se diriger vers la religion. En tout cas, il y a pour les spiritualistes l'idée d'une finalité, d'une liberté. Autrement dit, d'une prise en compte de l'esprit et de ce qui en fait la spécificité. C'est-à-dire que, pour un spiritualiste, la science est toujours insuffisante. Elle est toujours décevante. Elle ne répond pas à tout, et d'ailleurs, en un sens, elle ne se pose même pas les bonnes questions. Alors, on peut donner un exemple très simple, qu'on trouve notamment chez Bergson. Alors, il y a deux choses. Il y a l'idée d'abord, par exemple, qu'on peut tout à fait considérer qu'il y a un rapport évident entre l'esprit et la matière, sans pour autant que ce rapport soit direct. Bergson donne l'exemple du clou et du manteau. Alors, je crois que je l'avais déjà dit, mais je le répète quand même, parce que je trouve que c'est très beau. C'est vraiment cette idée qu'il pourrait y avoir entre l'esprit et le corps le même rapport qu'entre un manteau et un clou qui sert à le pendre. Évidemment, vous enlevez le clou, le manteau tombe. Ça ne veut pas dire pour autant que le manteau et le clou reviennent au même sous deux rapports différents. De la même façon, l'esprit, le corps. Vous enlevez le corps, oui. Vous enlevez le cerveau, il y a des chances que vous ne pensiez plus très bien. Mais ça ne veut pas dire que votre esprit est réductible au cerveau. Un exemple que donne Jan Hirsch, qui me semble très drôle, c'est un peu écœurant, au fond. Pour l'illustrer, c'est, on vous ouvre le cerveau, vous pensez à quelque chose de bleu. On peut trifouiller dans votre cerveau aussi longtemps qu'on le voudra, on ne trouvera jamais rien de bleu. Donc, la pensée en elle-même n'est pas réductible au mouvement physique, puisque cette pensée-là, justement, ne se trouve nulle part, nous dit Bergson, ne se trouve nulle part. Alors là, tout de suite, évidemment, ça semble complètement fou. Ça se trouve nulle part. Alors, il n'y a pas de pensée. Si, il y en a une. Mais si elle n'est pas physique, elle est quoi ? C'est bien le problème, et c'est exactement ce que reprochent évidemment les matérialistes. Ce que vous êtes actuellement en train de penser, c'est où ? C'est dans votre cerveau ? Oui, d'accord. Mais quelle réalité est-ce que ça a ? Est-ce que c'est simplement réductible à la biochimie ? Ah, vous avez du mal à le penser quand même, ça nous fait mal de le dire. Mais en même temps, cette réalité, là par exemple, l'expression un château en Espagne. À chaque fois, je ne sais pas pourquoi, je pense à un château rose, gonflable. Donc ça ne doit pas être ça, un château en Espagne. Mais imaginons un château. Chacun l'imagine à sa façon. Ce château, il est où ? Bon, c'est quelque part dans mon cerveau ? Je ne sais pas. Je ne suis même pas sûr de savoir précisément ce que je pense quand je le pense, puisque ce château, plus j'y pense, moins je réussis à le définir. C'est pareil pour le visage de ma femme. C'est un peu terrible. Hein. Je le connais comme ça très bien quand j'en parle. Et puis, plus j'essaye d'y penser, et plus il m'échappe. Bon. Donc, ces pensées-là ont quelque chose de totalement évanescent. En tout cas, le spiritualisme, spontanément, qu'est-ce que c'est ? C'est une critique du matérialisme, c'est une critique d'une position scientiste, c'est-à-dire d'une position qui considère que la seule forme de connaissance et de vérité est d'ordre scientifique. Donc c'est surtout quelque chose, on reviendra là-dessus, mais de négatif, non pas au sens péjoratif, mais quelque chose qui sert à montrer les limites de la science, sans pour autant pouvoir répondre, et c'est bien ça le problème. Sans pour autant pouvoir répondre. Donc, au fond, le matérialisme dénonce la religion. Pour le spiritualisme, au contraire, il s'agit de retrouver l'esprit de la religion et de dégager la religion de ce qui est mort en elle, afin de conserver, de mettre en lumière ce qu'elle apporte malgré tout d'essentiel. Mais attention, le spiritualisme ne va pas forcément de pair avec la religion, évidemment. Mais voilà, on a là deux points de vue très forts et absolument opposé. Le matérialisme qui dit, quand vous pensez au-delà de la science, vous ne pensez rien. Vous croyez penser, mais en fait, il n'y a rien, c'est du vent. Et le spiritualisme qui dit, il y a évidemment quelque chose en dehors de la science. La science ne peut pas tout expliquer. Simplement, il y a un moment où il n'y a pas forcément de mots pour le dire. Ce qui nous amène évidemment au cœur du problème. Il me semblait qu'il était important de faire le détour, mais maintenant, illustrons-le par le problème du jour, la question du vivant. Où en est-on par rapport au vivant ? Deuxième grand moment, si vous voulez, si vous avez besoin de grandes parties. Donc, ce qu'on peut déjà se dire, c'est que la recherche de ce qui est spécifique au vivant s'est toujours faite par rapport à la matière et surtout contre la matière. Parce que le vivant, d'emblée, se définit par rapport à l'inerte. Déjà, Aristote montrait la différence absolue entre une vraie main, une main de quelqu'un de vivant, moi, la mienne, par exemple, et une statue, ou la main d'un cadavre. Bon. Il y a quelque chose d'irréductible au vivant, nous disait ici Aristote, et ce n'est pas simplement une apparence extérieure. Imaginons qu'on peigne mon bras d'une façon absolument parfaite, il y a quand même quelque chose dans mon bras qui n'aura rien de vivant, hein, évidemment, enfin dans mon bras, moi assis, bien sûr, mais dans la statue de mon bras, même si de l'extérieur tout ressemble comme deux gouttes d'eau à mon bras, ce ne sera pas un bras. Donc il y avait une différence absolue, même entre une main, la main d'un cadavre, la main d'une statue, et la main vivante, hein, qui a la vie en elle. Donc ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau, c'est vraiment l'idée que la vie semble être une réalité spécifique. Et pour le vivant, il est très difficile de considérer qu'elle peut se résoudre uniquement dans la matière. Et c'est bien ce qui va poser problème aux biologistes. En gros, les biologistes, ils ont simplement deux solutions. Soit ils pensent que le vivant est une exception à l'ordre physique, soit ils considèrent que ce qui nous paraît absolument exceptionnel, c'est simplement en raison de notre ignorance. Ça veut dire que c'est une illusion qui devrait un jour disparaître quand on connaîtra suffisamment les lois de la physique et de la matière. En gros, le vivant nous apparaît comme un mystère parce qu'on ne connaît pas encore suffisamment, de façon suffisamment complexe, les lois de la matière. Et ce qui nous paraît mystérieux, un jour, sera probablement expliqué. Si vous êtes pour la première branche, je vous le dis, vous êtes plutôt vitaliste. C'est-à-dire que vous affirmez que la vie n'est pas explicable par les mécanismes de la matière inanimée. À partir de l'inanimé, on pourra le complexifier autant qu'on voudra, on n'aura jamais, jamais quelque chose de vivant. Donc le vitalisme d'emblée, c'est une résistance au scientisme. On l'a compris, le mécanisme, au contraire, c'est l'idée qu'il faut et qu'on doit et qu'il est impératif de réduire le vivant à la matière inanimée et la vie, la biologie, à la physique. Le mystère de la vie n'est donc que transitoire. Et il faut qu'il le soit, sinon on passe outre la science et on s'enfonce dans des méandres d'illusions, de métaphysique qui nous semblent bizarres. Alors, on peut combiner un peu les deux. François Jacob, par exemple, alors un bouquin extrêmement célèbre et très très important, bon, qui date des années 70, donc c'est pas tout récent, vous savez que ça va très vite dans le domaine de la biologie, mais dans La logique du vivant, François Jacob nous montre que, bien que le vitalisme ne soit pas scientifique dans sa démarche, il a joué et il joue encore un rôle absolument essentiel dans le progrès de la biologie. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas scientifique, mais il pose des vraies questions. Des questions indispensables, qui évitent d'ailleurs à la science de s'encrouter dans des positions qui seraient tenues pour définitives et qui empêchent justement de se poser les bonnes questions. Donc, le vitalisme va consister à relancer constamment la question en montrant les limites de la science. On va essayer justement d'appuyer sur l'incroyable richesse, sur la complexité des phénomènes vitaux. Et ça, d'une façon de plus en plus précise. Donc le vitalisme, en quelque sorte, ça va être un moteur pour la recherche scientifique, mais un moteur négatif. C'est d'abord un non. Un non au réductionnisme. Un non à cette idée que je ne suis qu'un ensemble de particules, même très bien agencées, même prodigieuses. Et pourtant, on ne peut pas considérer qu'il s'agisse là complètement d'une science, pour la même raison. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on questionne, mais on se trouve, à un moment donné, incapable d'expliquer. On ne peut pas expliquer en quoi réside ce mystère, en quoi réside cette différence. On ne peut que la montrer du doigt. Déjà, Aristote, dans la métaphysique, dans le traité de l'âme d'ailleurs, surtout, Aristote définissait l'âme comme ce qui anime la matière, ce qui l'informe, c'est-à-dire ce qui lui donne une forme à la matière. J'ai un corps, j'ai une âme, et mon âme va donner vie, donner forme à mon corps. Mais en faisant ça, il ne fait qu'ériger la question en réponse. Parce que répondre que c'est l'âme qui assure l'animation de mon corps, c'est simplement nommer le mystère. Parce que qu'est-ce que c'est que l'âme ? Eh bien, c'est simplement ce qui anime mon corps. Donc, il y a une circularité. Qu'est-ce que l'âme ? Ce qui anime mon corps. Et comment mon corps est-il animé? Bah, parce qu'il y a une âme. Bien. Donc on a nommé le mystère, mais on n'a pas expliqué. Alors, après, évidemment, il y a toute une... Les biologistes qui sont plutôt spiritualistes vont faire beaucoup de progrès. Avec Stahl, on parlera non plus d'âme, puisque c'est un mot quand même chargé d'émotions, et on parlera plutôt de principe de conservation. Enfin, ça ne changera pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on insistera simplement sur le fait que la vie, c'est une puissance d'organisation. Mais finalement, on se rend compte qu'on a à peu près la même chose que la définition d'Aristote. Une puissance d'organisation. C'est la puissance, c'est exactement les termes de Stahl, qui est scientifique, malgré tout. C'est une puissance qui organise la matière. Oui, mais là encore, circularité. D'où vient cette puissance? Comment l'expliquer? Alors, avec Bergson, ça devient plus subtil. Et pourtant, c'est toujours pareil. On désigne la vie, on montre son mystère, on montre sa puissance, on s'étonne, mais on ne peut que donner un nom à ce mystère. Et pour Bergson, ça deviendra l'élan vital. L'élan vital, pour montrer ce processus constant et imprévisible de la vie. Mais il y a un moment où, de toute façon, les mots nous manquent. Donc, face au vitalisme qui s'interroge, au contraire, bien sûr, le mécanisme, bien sûr, propose des modèles, et on va voir les trois modèles qui permettraient, d'une façon mécaniste, d'expliquer le vivant. Trois grands modèles qui sont assez intéressants, puisqu'on voit un peu toute l'histoire du mécanisme à travers ces trois modèles. Donc, les mécanismes font la nique aux spiritualistes en disant « mais nous, on sait expliquer, et voilà ce qu'on propose ». Alors, une petite parenthèse, si vous voulez un petit peu... dans une soirée, emporter l'adhésion et avoir tout le monde à vos pieds, soyez absolument matérialiste. Pour avoir fait plusieurs fois l'expérience, moi-même ne l'étant pas, confie, c'est un secret, on a toujours l'air d'un niais. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne croient pas qu'on peut tout réduire à la matière n'ont rien compris, parce que très souvent on connaît aussi la perspective matérialiste. Ça veut dire qu'on peut aussi considérer qu'il y a quelque chose derrière. Mais, comme le remarquait déjà Bergson, c'est toujours les perspectives les plus sombres, au fond, les plus rigoureuses, dans un sens, au niveau scientifique, qui, d'emblée, emportent l'adhésion. Alors, si vous voulez emporter l'adhésion dans une soirée, je vais vous donner quelques pistes. Je vais vous exposer les trois modèles mécanistes qui permettent de rendre compte du vivant. Et vous verrez si vous êtes convaincu. Le premier, on le connaît bien, celui-ci, c'est le modèle de l'automate. Modèle de la machine. Le corps-machine, c'est un modèle un peu dépassé aujourd'hui, mais l'est-il tant que ça? C'est un peu l'idée que le corps, c'est plein de tuyaux qui font circuler le sang, je caricature volontairement, et qu'il y a un ensemble de rouages, etc., de poulies, nous dit Descartes d'ailleurs, qui font gesticuler un peu tout ça et qui permettent d'être vivant. Voilà en gros. Bon, Descartes admet qu'il y a une pensée qui est irréductible à la matière. Mais en dehors de ça, tout ce qui est processus vivant, alors là, il n'y a même pas besoin de penser, ça se fait tout seul. Et c'est un peu vrai. Je ne sais pas comment mon corps, je vous l'ai déjà dit, est constitué. D'ailleurs, j'y connais jamais rien. Il paraît que le cœur est au milieu, alors qu'on le situe toujours plutôt par là ou par là. Je n'ai jamais la gauche ou la droite. Alors, je suis vraiment complètement... Voilà, gauche. Bon. Il est au milieu. Bon, mais de toute façon, ces ténèbres bourrées d'organes, je ne les connais pas. Donc, je peux tout à fait voir mon corps comme une machine. Effectivement, dans un sens, si un jour vous passez sur le billard, ce que je ne vous... Voilà. J'espère que ça ne vous arrivera pas, mais si vous êtes opéré, il vaut mieux être opéré par un chirurgien matérialiste que par un chirurgien spiritualiste. Je vous le conseille. Bon. Donc, ça a du bon de prendre le corps pour une machine. Dans un sens, on répare, on accommode. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Je m'excuse auprès des médecins de caricaturer comme ça, c'était un peu pour rire. C'est bien que, pour vous, le corps n'est pas simplement une machine. Mais bon. Ce n'est pas des rouages et des poulies, mais c'est des machins qui font passer d'autres machins. Alors, ce modèle-là a résisté à beaucoup d'assauts, mais il y a un vrai problème. Pourquoi est-ce qu'il ne marche pas? Pourquoi le corps n'est pas un ensemble de poulies et de tuyaux et de fluides? Tout simplement parce qu'il manque un concept central, c'est l'autonomie du vivant. Kant, dans un texte assez drôle, pour une fois, quand même assez rare hein, pour Kant, nous montre la différence entre justement cette vision-là, et la spécificité du vivant. Alors, je laisse Kant parler très rapidement. Dans une montre, comparé à une montre, une partie est l'instrument du mouvement des autres, mais un rouage n'est pas la cause efficiente de la production de l'autre rouage. Une partie existe, certes, pour l'autre, mais elle n'existe pas pour elle. Bon, pour l'instant, c'est pas très drôle, hein. Oui. Ce pourquoi la cause qui produit ces parties et leurs formes n'est pas non plus contenue dans la nature. Ouais, en fait, je vais vous l'expliquer. Parce que c'est vrai que c'est jamais très drôle quand je le lis et généralement ça plombe l'ambiance. C'est très simple. Réduire le corps à un ensemble de poulies et de choses comme ça n'expliquera jamais comment un corps vivant peut se reproduire, peut se réparer, puisque votre corps se répare tout seul. Vous faites une lésion, hop, ça se répare. Vous ne savez pas comment, mais ça marche. Enfin, si vous avez fait médecine, vous savez comment. Mais ça marche, bien. Bon, dans les rapports sexuels, on peut perpétuer son espèce. Bref, alors qu'une montre, nous dit Kant, c'est ça qui est drôle, en général, n'engendre pas de montre et ne se répare pas elle-même. C'est aussi le problème, ça coûte très cher récemment. Donc là, on voit tout de suite le modèle mécaniste, ses limites. C'est qu'il y a quelque chose d'absolument inhérent à la vie qu'on n'a pas dans le mécanisme, c'est au moins le fait de pouvoir se reproduire. Une montre n'engendre pas une montre, sauf cas absolument exceptionnel. Et une montre ne se répare pas elle-même, donc il y a quand même une spécificité du vivant, c'est son autonomie. Bien. Alors on a proposé un deuxième modèle. Le second modèle, c'est une conception... Alors c'est marrant parce que c'est apparu au moment où on inventait le moteur thermique et la machine à vapeur. Et donc on a proposé une conception thermodynamique. Et là, il y avait quelque chose que n'avait pas le premier modèle et qui était génial. C'est l'idée qu'il y a une assimilation de la part du vivant d'éléments extérieurs. Pour vivre, il faut respirer. Donc on assimile, il faut manger, il faut évacuer. Et donc, on voyait là-dedans quelque chose de très proche du moteur. Pour que votre moteur fonctionne, je m'adresse aux messieurs, non, je plaisante, pardon, trêve de misogynie ou de... Peu importe, moi je déteste tout ce qui est des voitures, donc ce n'est pas du tout condescendant de ma part. Mais... apparemment, un moteur, il faut mettre de l'essence. Et c'est par la combustion, etc., que, voilà, vous ne mettez pas d'huile, vous ne mettez pas d'essence, ben, votre voiture fera teuf, 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 et s'arrêtera. Surtout si vous ne mettez pas d'huile, alors le problème, c'est qu'elle s'arrêtera, et qu'en plus, ça fumera. Bon, après ce que j'en sais, c'est ma femme qui conduit. Mais le modèle thermodynamique, ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'on se dit que le vivant, c'est un lieu de consommation et d'échange d'énergie et de fluide. On prend des éléments extérieurs, pop, 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 on mange... on est plein d'énergie, puis au bout d'un moment, si on ne mange pas, on se fatigue, on dépérit, etc. Mon ficus, moi qui fais toujours mourir mes plantes sans le vouloir chez moi, je ne l'arrose qu'une fois tous les 6 mois, et je vois qu'il est en train de mourir quand toutes ses feuilles tombent. Donc je l'arrose. Bon, donc, bon, j'ai pas besoin de passer par l'anecdote du ficus, mais c'est pour évacuer un petit peu quelque chose qui me fait culpabiliser à chaque fois. Mais voilà, thermodynamique, il y a un rapport d'assimilation. Mais ce modèle ne permettait pas toujours pas, justement, d'évoquer le premier point, la fameuse idée, notamment de la reproduction ou de l'auto-réparation. On a quelque chose en plus, mais il nous manque encore quelque chose. Ça va, vous suivez toujours? Bon, c'est complexe un peu, ces histoires. Mais on avait donc le rapport à l'extérieur qu'on vient emmagasiner, mais il nous manque encore cette possibilité de se reproduire. Le moteur n'engendre pas d'autres moteurs et ne se répare que rarement lui-même. Bien. Donc le dernier modèle, et c'est celui qui est à peu près en cours aujourd'hui, c'est cette idée, parce qu'on a, et là aussi c'est parce qu'on a inventé les ordinateurs, comme c'est marrant, on invente le moteur, on propose un modèle thermodynamique, on invente un ordinateur, on se dit, le vivant c'est de l'information. Quand même rigolo. Bon. Et bien c'est exactement ça. Le vivant c'est de l'information. C'est-à-dire que c'est une conception cybernétique du vivant. Le vivant est un échange d'informations. Vous allez me dire, mais c'est n'importe quoi, on n'est pas un programme ordinateur informatique. Eh bien si, enfin non, pas un programme informatique, mais on a une chaîne ADN. Et c'est ça qu'on va transmettre. Qu'est-ce qu'on est? On est une chaîne ADN, on est un ensemble d'informations. Voilà le dernier modèle du matérialisme, et donc il suffirait de considérer qu'il n'y a qu'échange d'informations. On verra que Darwin s'inscrit dans cette hypothèse. Vous couchez avec un monsieur ou avec une dame, vous transmettez une partie de votre génome, il y a les deux qui se croisent, on crée un nouvel être vivant, et d'un seul coup, pouf, on ajuste quel est cet être vivant. Eh bien, simplement, une possibilité parmi un très grand nombre, et même pas une infinité, un très 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 grand nombre que je ne saurais pas du tout évaluer, beaucoup plus grand que vos chances de gagner au loto. Donc, on a simplement une combinaison génomique entre deux chaînes ADN. Donc tous les enfants possibles, c'est toutes les combinaisons possibles de deux chaînes ADN. Donc il y a bien ici cette idée qu'il y a un échange d'informations, on explique bien tout un tas de choses, et ça répond à pas mal de choses. Alors justement, et c'est là l'essentiel, on en arrive notamment à la théorie de Darwin. Parce que le grand problème c'est, mais qui est l'organisateur ? Qui est l'organisateur de toutes ces chaînes d'informations ? Qu'est-ce qui va permettre à même un être vivant d'apparaître? Eh bien, la théorie de Darwin permet de répondre sans faire intervenir aucune puissance transcendante. Avec seulement le hasard et la nécessité, on peut rendre compte de la totalité de l'évolution des espèces. Voilà ce que nous propose Darwin. Mais on va voir que c'est pas si simple du tout. Donc voilà, on est maintenant face au grand problème. Est-ce que tout peut s'expliquer par le vivant comme un ensemble d'informations et une sélection naturelle qui serait simplement une suite de hasard, on le verra, et de nécessité. Alors, avant d'aborder directement Darwin, il faut qu'on en passe quand même par Lamarck, qui était le tout premier à proposer une théorie de l'évolution, hein, vous le savez, la première véritable théorie de l'évolution qu'on a retenue est celle de Lamarck, avant Darwin. Mais c'était une théorie finaliste. Et ce qu'il y a de rigolo, et je pense que c'est même le cas pour quelques-uns d'entre vous au moins, très souvent quand on parle de Darwin, en fait, on parle de Lamarck. Parce qu'on a un mal absolument fou à penser en termes darwiniens. C'est extrêmement difficile de penser en termes darwiniens, et on va voir à quel point. Alors, pour l'instant, pour comprendre un peu les enjeux de tout cela, il va falloir faire un sort aussi à cette idée de finalité. Maintenant, on a matérialisme et positivisme, en quelque sorte, d'un côté. On a spiritualisme, vitalisme, de l'autre. D'un côté, on a la science. De l'autre, on a une résistance à la science. D'un côté, on a la cause efficiente, une cause, une causalité, un système de cause. Et de l'autre côté, on a un système de fin. De but. Parce que malgré tout, si vous êtes spiritualiste, vous considérez qu'il y a derrière une adaptation de la nature par elle-même. Alors, le problème, c'est que qui dit finalité, qui dit but, on a tout autant du mal à l'attribuer à la nature, parce que jusqu'à preuve du contraire, la nature n'est pas consciente d'elle-même. Elle fait plein de choses formidables, des petits lapins, des fleurs, des choses merveilleuses. Mais est-ce qu'elle le fait en toute conscience? Ça paraît très peu scientifique de le dire. Or, on ne devrait a priori parler de finalité que lorsqu'un sujet est capable de se déterminer lui-même dans un but conscient et volontaire. Si on veut expliquer la différence entre une cause efficiente et une intention, on peut prendre un exemple extrêmement simple. L'exemple du train. Il y a mon train qui fonce. Il arrive à la gare, moi je suis un peu loin, je cours pour attraper mon train. L'explication causaliste, la cause, c'est simplement l'idée que je cours parce que je suis en retard. Je suis en retard parce que je me suis levé tard. Je me suis levé tard parce que mon réveil n'a pas sonné. Mon réveil n'a pas sonné parce que je l'ai programmé comme un pied. J'ai programmé comme un pied parce que ma femme ne m'a pas dit comment il marchait, etc., etc. On peut remonter de chaîne en chaîne et on a une explication causale, c'est-à-dire par l'extérieur. Mais du point de vue de l'intention, c'est le contraire. Du point de vue de l'attention, c'est dans l'idée d'avoir mon train que je cours. Je cours pour avoir mon train. C'est-à-dire qu'il y a une représentation mentale du fait que je peux avoir mon train si je cours. Là, il y a un but. Là, il y a une attention. On n'a pas simplement une causalité, on a une intention. Est-ce qu'on peut prêter à la nature une telle intention ? C'est à la fois ce qu'on fait et c'est à la fois ce qu'on s'interdit. Pourquoi est-ce qu'on se le fait et pourquoi est-ce qu'on s'interdit? C'est très simple. Alors là, je vais vous expliquer un truc au cœur même du débat. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi vous êtes peut-être lamarckien sans le savoir, tout en vous disant darwinien. On le sait, aujourd'hui c'est Darwin qui a gagné. Normalement. Et en fait, c'est pas si simple. Vous avez toujours entendu dire, par exemple, que, normalement, on a de moins en moins de poils, parce qu'aujourd'hui, on a des vêtements et qu'il fait chaud dans les vêtements. D'ailleurs, j'ai trop chaud, là. Et que du coup, on n'en a pas besoin. Donc, on n'a plus de poils parce qu'on a moins besoin que les hommes préhistoriques qui, eux, s'en servaient beaucoup. La girafe, pareil, on a tendance à dire que c'était le seul moyen pour qu'elle s'adapte et qu'elle puisse manger les feuilles des arbres, sinon elle serait morte de faim. Le coup de la girafe. On dit aussi souvent que les petits lapins perdent, vous savez qu'il y a une espèce de lapin qui perd son pelage gris en hiver pour devenir blanc, et que c'est de façon à pouvoir survivre, c'est une adaptation de l'individu pour éviter, en se fondant dans la neige, d'être abattu par le chasseur. Si tout cela vous semble très darwinien, c'est que vous vous trompez. C'est entièrement Lamarck. Entièrement. C'est-à-dire que toute cette idée, ça ne vous semble pas énorme, j'ai pas l'impression, là on n'a pas l'impression que j'ai prêté énormément à la nature, que j'ai prêté des buts et des intentions. Eh bien si. Parce que j'ai admis cette hypothèse qu'il y a une adaptation directe des individus au milieu. Que nous dit Darwin ? Exactement le contraire. Explication très simple, avec un exemple rigolo. Pardon, qui se veut rigolo selon mes propres critères. Imaginons que notre lapin... Alors non, commençons pas par le lapin, ça c'est l'exemple rigolo. Commençons juste par ce que dit Darwin. Ce que dit Darwin, c'est qu'on peut se passer de toute forme de finalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une adaptation directe de l'espèce au milieu, comme on le croit très souvent. Il y a simplement une variation, des variations infinitésimales dans les gènes, qui se font complètement au hasard, et qui se font tout le temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous reproduisez votre génome, il y a juste, en gros, une erreur de copie, ou une transformation dans la copie. Ou, simplement parce qu'il y a deux chaînes qui se croisent, eh bien, il y a d'autres chaînes qui se produisent, etc. Mais il y a des variations qui se font sans arrêt, enfin sans arrêt, d'un individu à l'autre, et qui finalement, en soi, se font au hasard. Ça veut dire que le gène qui va apparaître, et qui apparaît au hasard, peut être simplement positif par rapport au milieu, neutre par rapport au milieu, ou négatif par rapport au milieu. Ça veut aussi dire simplement qu'une infinité de choses se passent sans arrêt, et la plupart du temps, on s'en fiche. C'est-à-dire, supposons qu'un gène mute, et que une couleur nouvelle de cheveux apparaisse, violet, naturellement violet. À ce moment-là, si c'est indifférent, ou si c'est positif, ça finira par se perpétuer. Pour une raison extrêmement simple, non pas parce que c'est bien et que la nature veut ce qui est bien, comme le pensait Lamarck, mais simplement parce que si c'est favorable, l'individu survit. Le petit lapin, imaginons qu'il perde en hiver son pelage blanc, gris, et qu'il devienne rose fuchsia. C'est rare, mais ça peut tout à fait arriver. Il devient rose fuchsia, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y aura qu'un. Parce qu'on ne verra que lui dans le manteau de neige. Donc les chasseurs seront contents. Ils auront un lapin rose fuchsia. Bon, vous voulez un lapin, vous trouvez une couleur un peu plus vraisemblable, turquoise, ou ce que vous voulez. Mais peu importe. Au départ, il y a des variations qui se font complètement au hasard. Et il se trouve que si effectivement cette variation vous handicape par rapport au milieu, c'est fini pour vous simplement parce que vous êtes abattu. Vous mourrez. Et vous ne pouvez pas transmettre votre gène. Donc il ne peut pas se reproduire, ce gène, et donc il y a disparition du gène. Donc voyez comment on peut expliquer uniquement par le hasard et la nécessité. Votre lapin, il est rose fuchsia, il se fait abattre, il ne peut pas transmettre son gène. Si ça le favorise parce qu'il apparaît dans une forêt rose turquoise, donc j'ai dit quoi ? Fuchsia, et bien à ce moment-là, il est favorisé, donc il peut se reproduire, et il va avoir tendance à développer son gène, tout simplement. Voyez que le simple mécanisme peut suffire. La girafe, la fameuse girafe, vous croyez qu'elle avait un long cou pour pouvoir manger les feuilles ? Non. Et c'est là que ça devient difficile. C'est simplement que, par des variations infinitésimales, minuscules, sur des millions d'années, les girafes qui ont été amenées à survivre sont celles qui ont développé les gènes, qui ont augmenté leur cou. Celles qui n'ont pas eu ce gène positif, sont mortes, parce qu'elles n'ont pas pu survivre. Donc ce n'est pas que l'espèce est adaptée pour survivre, c'est que tous ceux qui n'étaient pas adaptés complètement au hasard sont morts parce qu'ils n'ont pas pu se reproduire. Vous naissez avec les cheveux violets, si ça plaît à personne dans la société et que personne veut de vous, vous ne pourrez pas vous reproduire. Donc ce gène des cheveux violets disparaîtra avec vous. Si au contraire, vous naissez avec les cheveux violets et que c'est fashion, parce qu'en ce moment c'est la mode, vous pourrez vous reproduire et vous aurez tendance amener votre gène sur d'autres terres. Bref, c'est vraiment ça, la sélection naturelle, c'est que Simplement, c'est est-ce que ce gène est adapté au milieu ou pas ? C'est tout. Et adapté, on survit. Et pas adapté, on a plus tendance à se faire dégommer. Alors, Stephen Jay Gould explique la même chose en bien plus simple que moi peut-être, avec moins d'exemples rigolos, hein, mais en deux pages, dans Darwin et les grandes énigmes de la vie, et vous avez ça, vous avez un très très bon résumé en deux pages, les deux premières pages du prologue. Alors j'aurais pu vous les lire, mais là ce serait redondant, puisque je viens de vous l'expliquer. Alors, si vous voulez que je le lise, je le lis. Si vous n'avez rien compris, il est plus clair. Hein. Ça va ? Bon. Très bien. Alors, tout le problème, on le verra, c'est que ce n'est pas si facile que ça de l'accepter. D'accepter que c'est qu'une question de variations infinitésimales qui se font au hasard, et si l'espèce survit, elle peut transmettre son gène. C'est pas facile parce qu'on voit des choses incroyables et stupéfiantes dans la nature. Mais on le verra après. Pour l'instant, on part plutôt sur l'hypothèse inverse, celle de Lamarck. Lamarck dit qu'il y a une adaptation de l'espèce à son milieu. La girafe, sur des millions d'années, va avoir tendance à augmenter son cou pour optimiser ses chances. Mais si vous admettez ça, ça veut dire que vous admettez qu'il y a une sorte de progrès dans la nature qui va vers le mieux, qui va toujours essayer, pour peut-être se préserver, d'améliorer ces espèces, de les adapter au milieu. Mais à ce moment-là, vous admettez qu'il y a une finalité générale de la nature qui cherche à se préserver. Et vous n'êtes pas darwinien, vous êtes lamarckien. Alors, heureusement, vous avez le droit à ce moment-là encore de citer. Parce que devant les problèmes que pose Darwin, de plus en plus de gens deviennent lamarckiens. Même chez les grands biologistes, hein, bien sûr, ce qu'on appelle le néo-lamarckisme. Mais Lamarck nous dit donc qu'il y a une adaptation de l'espèce au milieu. Ça veut dire aussi qu'il y a à ce moment-là une finalité générale, qu'on appellera une finalité externe. Finalité externe, ça veut dire l'ensemble de la nature pourvoit à ses propres besoins. L'ensemble, on doit supposer qu'il y a une adaptation de la nature à ses propres problèmes. Sans qu'il y ait pour autant, bien sûr, une conscience directe de la nature. Mais il y aurait une sorte de volonté de la part de la nature, enfin pas de volonté, de volonté inconsciente, mais bref, un processus naturel qui tend à se préserver. Ça, c'est Lamarck. Alors, Kant va être pas complètement convaincu par cette idée d'une finalité externe. Il va rabattre la finalité externe à une finalité interne. Ça veut dire, c'est très simple, ça paraît compliqué, mais c'est pas du tout compliqué. Finalité externe, c'est que l'ensemble de la nature pourvoit à ses besoins. Finalité interne, c'est qu'il n'est pas besoin même de le supposer. On peut supposer que c'est simplement chaque individu, chaque corps, chaque être vivant qui s'adapte. C'est-à-dire, il y a une adaptation de mon propre corps à mon environnement. Vous savez qu'il y a des organes qui peuvent suppléer aux fonctions d'autres organes. Vous savez que il y a par exemple justement je m'égratigne, mon corps cicatrise. Tout cela fait qu'il y a quand même une forme de finalité. On a du mal à considérer qu'il y a que du mécanisme, puisqu'on a vraiment l'impression derrière que mon corps fait en sorte que je puisse survivre. Donc Kant dit la finalité externe, c'est un peu gênant, ça veut dire qu'on prête des intentions à la nature, on va tout ramener à la finalité interne et on va juste dire c'est chaque corps qui se suffit à lui-même, et ça suffira déjà bien comme ça. Donc, finalité interne, c'est l'idée que il y a une finalité inconsciente, un but inconscient, involontaire, qui fait comme si la nature agissait selon ses besoins, comme si mon corps se réparait parce qu'il en a besoin. Et Kant insiste sur le « comme si », la belle affaire. Comme si, il ne suffit pas de dire « comme si ». C'est vraiment la solution kantienne. C'est, évidemment, dans les faits, on ne peut pas dire qu'il y a une finalité naturelle. Ça serait prêter des intentions à la nature. On ne peut pas dire qu'il y a non plus une finalité propre à chaque corps. Ce serait prêter des intentions à la nature. On va faire comme si il y en avait une. Comme si est un mot. Soit vous admettez qu'il y a une forme d'intention, soit vous la chassez. Mais vous ne pouvez pas faire un peu les deux en disant « c'est un peu comme si ». C'est une métaphore. Mais ce n'est pas un principe explicatif. Bien. Bon, alors, l'hypothèse kantienne est intéressante, au moins au niveau méthodologique. C'est-à-dire qu'il dit qu'il faut être matérialiste dans la méthode, appliquer au vivant les lois de la matière, ça on les connaît, mais il faut faire comme si il y avait quand même quelque chose qui dépassait ces lois, de façon à ce qu'on puisse quand même rendre compte de cette spécificité du vivant. Il se répare lui-même, il peut se reproduire, il sent, il est sensible. La pierre n'est pas sensible. Bien. Mais précisément, Bergson ça ne lui plaît pas. Alors, un tout petit passage de Bergson, j'aime bien Bergson parce qu'en général il est très clair. Et il va essayer de réfuter cette idée du finalisme interne que propose Kant. La nature met les êtres vivants aux prises les uns avec les autres. Elle nous présente partout le désordre à côté de l'ordre, la régression à côté du progrès. Mais ce qui n'est affirmable ni de l'ensemble de la matière, ni de l'ensemble de la vie, ne serait-il pas vrai de chaque organisme pris à part ? Donc ça, c'est l'hypothèse de Kant. N'y remarque-t-on pas une admirable division du travail, une merveilleuse solidarité entre les parties ? L'ordre parfait dans la complication infinie. En ce sens, chaque être vivant ne réalise-t-il pas un plan immanent à sa substance ? Cette thèse consiste au fond à briser en morceaux l'antique conception de la finalité. On n'accepte pas, on tourne même volontiers en ridicule, l'idée d'une finalité externe, en vertu de laquelle les êtres vivants seraient coordonnés les uns aux autres. Il est absurde, dit-on, de supposer que l'herbe a été faite pour la vache, l'agneau pour le loup. Mais il y a une finalité interne. Chaque être est fait pour lui-même, toutes ses parties se concertent pour le plus grand bien de l'ensemble et s'organisent avec intelligence en vue de cette fin. Telle est la conception de la finalité qui a été pendant longtemps classique. Le finalisme s'est rétréci au point de ne jamais embrasser plus d'un être vivant à la fois. En se faisant plus petit, il pensait sans doute offrir moins de surface au coup. La vérité est qu'il s'y exposait bien davantage. Si radicale que notre thèse elle-même puisse paraître, la finalité est externe, où elle n'est rien du tout. Donc en gros, c'est pas la peine de dire « Je ne crois pas que la nature a une forme de finalité, mais le corps vivant, lui, en a quand même une. Je vois bien que mes cellules sont vivantes, elles ont toute une fonction, elles savent toutes ce qu'elles doivent faire, il y a quand même quelque chose de vivant et qui n'est pas simplement les lois de la physique. » Mais si vous l'admettez pour le corps vivant, vous l'admettez pour tout. Parce que c'est simplement que vous sortez de ce que peut admettre la science à un moment donné. Alors, il reste un problème, avant qu'on arrive proprement au problème du darwinisme lui-même, parce que là, pour l'instant, on a l'impression qu'on donne complètement raison à Darwin, et on va voir que ce n'est pas si simple. Le problème, c'est la question de l'entropie. Qu'est-ce que c'est que l'entropie ? C'est une loi générale en science qui dit que tout système fermé de nature purement matérielle, s'achemine toujours vers une dégradation. À partir de l'organisé, on va toujours avoir une désorganisation. De la vie, on va vers la décrépitude. Quelque chose d'ordonné, on va vers le désordre. Bref, l'entropie, c'est un principe général qui fait qu'il y a progressivement de la mort, du désordre, de la désinformation. L'organisme, qu'est-ce que c'est alors ? C'est du coup ce qui va lutter contre l'entropie, pour justement préserver l'ordre. Alors, j'avais un très beau texte là-dessus, mais voilà. Un texte de Michel Serres qui montre justement que la vie se définit comme ce qui résiste à l'entropie, à la mort, au désordre, à la désinformation. Donc, la vie, c'est ce qui résisterait à cela. Si nous laissons faire sans intervenir, les écuries s'encombrent de fumier. Le renard vient manger les poules. Le canal se charge de vases. Vous voyez bien, à basse mer, ce port comblé de vases. Bientôt, les vaisseaux ne passeront plus. Les choses se mélangent. N'agitez donc pas, ne tournez pas la cuillère, le sucre fond dans l'eau, inévitablement. Il existe un fondement objectif du travail. Sans lui, la dérive temporelle vers le désordre ou la complexité serait plus rapide. Contrairement à tout ce qu'on dit en philosophie classique et contemporaine, les hommes ne sont pas les seuls à travailler. Nous ne sommes jamais si exceptionnels. Les animaux travaillent, les organismes vivants aussi bien. Je veux dire que la vie travaille, qu'elle est vie par la lutte contre la tendance à la mort, par le tri. Ça, c'est le texte. Que dit, du coup, ici Michel Serres ? La vie, c'est une résistance à la mort. C'est une résistance à la désorganisation et à l'entropie. Et me dire, mais non, on vieillit, on va vers la décrépitude, donc de notre belle organisation qu'on avait au départ, quand on était enfant, ou alors qu'on a à l'âge parfait. Alors, Aristote se demandait quel était ce fameux âge parfait. Le problème, c'est qu'il était bien trop tôt, évidemment, mais les Grecs mouraient plus tôt aussi. Aristote se posait la question de l'entéléchisme, c'est-à-dire à quel moment j'atteins mon point de convergence maximale ? À quel moment je vais vers la lente pente de la décrépitude ? À quel moment est-ce que je vais vers un mieux-être, hein, voilà. Et à quel moment est-ce que, pouf, il y a la rupture, et après ça va toujours vers le moins bien ? Et Aristote disait un truc absolument effroyable, genre, je sais pas, 19 ans, 20 ans, 25 ans. Quelle horreur. Tu veux dire que... Eh oui. Mais peu importe. L'idée, c'est que vous allez me dire, mais oui, mais l'entropie, on n'y résiste pas tant que ça. On ne s'améliore pas avec l'âge. Moi, par exemple, avant, je faisais la fête la nuit. Je ne dormais pas de la nuit, j'étais tout frais le matin. Aujourd'hui, je ne me couche pas à 10h30. Le matin, je suis complètement épuisé. Bon. Donc, il y a bien quelque chose qui semble, malgré tout, se désinformer. Eh bien non, la preuve, les enfants. Si vous admettez qu'il y a une entropie dans le vivant, vous admettez que, logiquement, à chaque fois que vous reproduisez, les enfants seront toujours un peu moins bien que vous. Je ne dis pas que c'est le contraire. Mais je dis que, justement, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, mes enfants sont bien mieux que moi. Mais indépendamment de ça, mon fils, j'aime à dire que c'est moi en mieux. Il est magnifique, il est né il n'y a pas longtemps. C'est peut-être pour ça aussi. Mais voilà, l'idée c'est qu'il n'y a pas moins de perfection dans les enfants que dans les parents. Justement, il y a une régénération que le vivant connaît et que ne connaît pas tout le reste des corps matériels. Tous les corps sont voués simplement à la décrépitude, à l'effondrement, sauf le vivant, parce qu'il se régénère en se reproduisant. Est-ce que là, on a un argument contre Darwin ? Absolument pas. Mince. On n'a toujours pas. On lui donne encore raison. C'est affreux. Et oui, parce que Darwin l'explique parfaitement, cette idée. Il dit juste que par pur mécanisme, il y a une reproduction génique et voilà. Bon, alors voilà, on est maintenant face au grand problème. S'il y a une science du vivant, est-ce qu'on est obligé de donner raison au mécanisme ? Est-ce qu'on est obligé de donner raison à Darwin ? Parce que c'est du mécanisme. Darwin, c'est l'explication qui se passe absolument de toute forme de finalité naturelle. La théorie de Darwin, maintenant, on la connaît. Enfin, vous la connaissiez sûrement déjà avant. Mais donc, on a besoin de très peu de choses pour comprendre le darwinisme. Vraiment, l'origine des espèces, c'est un énorme pavé. On peut vraiment la résumer en très peu de choses. C'est vraiment exactement ça. C'est l'idée que... D'ailleurs, voilà. On peut le résumer en 4 lignes et demie. Alors, déjà, 3 principes. Les organismes varient et leurs variations se transmettent, en partie du moins, à leurs descendants. 2. Les organismes produisent plus de descendants qu'il ne peut en survivre. 3. En règle générale, le descendant qui varie dans la direction favorisée par l'environnement survivra et se reproduira. C'est juste exactement ce que je vous ai expliqué. Le lapin qui peut transmettre son gène verra son gène survivre et se multiplier. Deux conséquences. Bon, on a en gros 3 principes et 2 conséquences. La principale conséquence étant, on peut tout réduire au hasard et à la nécessité. On n'a absolument plus besoin de finalité et donc, vive le mécanisme. Voilà ce que dit en gros Darwin. La finalité, ça nous ennuie parce qu'on la voit quand même un peu partout. Cournot, par exemple, va donner un exemple très éclairant par rapport à la finalité. Le fait suivant qui s'est vraiment produit. On a une maman qui a perdu ses 2 fils au combat. Dans 2 pays différents, pas de bol, à 2 endroits très différents, ils ne se parlaient absolument pas, ils ne sont pas programmés un truc comme ça, et ils sont morts exactement le même jour. Le même jour, 2 endroits différents du globe, 2 frères meurent au même moment. Hasard ? Coïncidence ? Alors évidemment, d'emblée, on dit, eh bien, simultanéité, c'est tout à fait explicable. On ne connaît pas toujours les principes explicatifs. Ça peut être simplement un hasard. Le problème du hasard, c'est que lui aussi, il pose problème par rapport à la science. On appelle hasard plutôt ce qu'on n'est pas capable d'expliquer. Si on pouvait avoir sous les yeux toutes les lignes causales, peut-être qu'il n'y aurait pas de hasard, simplement de la nécessité. D'un autre côté, on est très tenté de dire, mais c'est pas seulement hasard, il y a bien quelque chose, il y a quand même quelque chose. Mais admettre ce quelque chose, c'est quand même céder aux sirènes de la métaphysique, tout simplement. Simplement, si je vous dis, ces 2 frères sont morts le même jour, à la même heure. Et là, tout de suite, on se dit, ah, mais là, ça commence à devenir quand même hautement improbable. Il y a quand même un sens, serait-ce qu'inconscient, je ne sais pas, quelque chose. Voilà. En tout cas, la part des choses entre l'improbable et le hasard est parfois difficile à discerner. Et c'est très exactement le problème de Darwin. Ouf, on va enfin pouvoir trouver quelque chose qui nous pose problème au sein du darwinisme. Quel est le problème ? Un exemple célèbre pour les biologistes, mais qu'on n'a pas entièrement résolu, même si on a des théories qui permettent un petit peu d'en parler. C'est un problème qui est apparu à travers le problème de l'œil. On s'est rendu compte d'une chose très simple. C'est que, on l'a dit, il y a des mutations infinitésimales, des variations infinitésimales, des mutations progressives. Qu'est-ce que c'est qu'un système visuel ? C'est un appareil extrêmement complexe. Extrêmement complexe. Avec un cristallin, avec une pupille, avec plein de choses. Vous faites varier un tout petit peu cet ensemble très complexe. Qu'est-ce qu'on a ? Ah pardon, je n'ai pas le droit d'interroger quand je fais une conférence, ça sera après. On a la cécité de la part de l'individu. C'est très simple. C'est tout est tellement imbriqué dans tout que vous faites varier un tout petit peu le cristallin, bon, vous faites varier un tout petit peu n'importe quel aspect de votre œil, et ça se fait sans arrêt par variation infinitésimale, l'individu ne peut plus voir. Et qu'est-ce qu'on a vu ? Eh bien que, en fait, il y avait des transformations dans les systèmes visuels qui allaient toujours par paquets. Incroyable ! Ça veut dire que quand il y a une mutation, il y a plein d'autres mutations simultanées qui font qu'il y a une transformation dans le système visuel sans entraîner la cécité. Voyez-vous ça ? Mais ça nous gêne. Enfin, ça gêne les darwiniens. Pourquoi ? Parce que d'un seul coup, ça veut dire qu'il y a comme une organisation en vue de quelque chose. Vous savez, la différence entre Lamarck et Darwin, c'est qu'on dit qu'en général, bon, pour Lamarck, c'est la fonction qui crée l'organe. Le cou de la girafe qui lui permet de manger. Alors que pour Darwin, c'est plutôt l'organe qui crée la fonction. C'est-à-dire que si l'organe peut servir à quelque chose, il y a une nouvelle fonction qui apparaît. Dans le cas de l'œil, on aurait plutôt un lamarckisme qui reviendrait au galop. Parce que ça voudrait dire que pour qu'il y ait une transformation dans le système visuel, accompagnée de plein d'autres transformations qui permettent la vue, ben ça veut dire que la nature fait quand même drôlement bien les choses. À chaque fois qu'il y a une transformation de ce type, plein d'autres transformations interviennent pour permettre à l'individu de continuer à voir. Est-ce que vous voyez ? Justement. Bon. Alors, Bergson en parle à un moment donné, et il en parle toujours avec beaucoup de finesse. J'avais repéré le problème de l'œil, page 64-65. Alors, je ne l'ai pas relu, j'espère que ce sera aussi flagrant qu'il me semblait. Nous voulons simplement montrer que, petite ou grande, les variations invoquées sont incapables, si elles sont accidentelles, de rendre compte d'une similitude de structure comme celle que nous signalions. Acceptons d'abord, en effet, la thèse darwiniste des variations insensibles. Supposons de petites différences dues au hasard et qui vont toujours s'additionnant. Il ne faut pas oublier que toutes les parties d'un organisme sont nécessairement coordonnées les unes aux autres. Peu m'importe que la fonction soit l'effet ou la cause de l'organe. Un point est incontestable, c'est que l'organe ne rendra service et ne donnera prise à la sélection que s'il fonctionne. Que la fine structure de la rétine se développe et se complique. Ce progrès, au lieu de favoriser la vision, la troublera sans doute. Si les centres visuels ne se développent pas en même temps, ainsi que diverses parties de l'organe visuel lui-même. Si les variations sont accidentelles, il est trop évident qu'elles ne s'entendront pas entre elles pour se produire dans toutes les parties de l'organe à la fois, de telle manière qu'il continue d'accomplir ses fonctions. Darwin l'a bien compris, et c'est une des raisons pour lesquelles il suppose la variation insensible. La différence qui surgit accidentellement sur un point de l'appareil visuel, étant très légère, ne gênera pas le fonctionnement de l'organe. Et dès lors, cette première variation accidentelle peut attendre, en quelque sorte, que des variations complémentaires viennent s'y ajouter et porter la vision à un degré de perfection supérieur. Soit. Mais si de la variation insensible ne gêne pas le fonctionnement de l'œil, si la variation insensible ne gêne pas le fonctionnement de l'œil, elle ne le sert pas davantage, tant que les variations complémentaires ne se sont pas produites. Dès lors, comment se conserverait-elle par l'effet de la sélection ? Vous avez un truc qui vous empêche de voir, on peut imaginer qu'avec le temps, on aura d'autres trucs qui viendront compléter la première, et par hasard, ça peut quand même marcher. Mais ça, c'est sur des millions d'années. On ne va pas attendre que cette petite imperfection se transforme, se cumule avec d'autres imperfections qui finalement rendront opérationnel le système visuel. ça se fait en même temps. Et ça, on l'a constaté et on le constate aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a, et d'ailleurs c'est même pas seulement ça, c'est ce que dit d'ailleurs Monod, hein, qui est un biologiste, hein, les mutations se font par saut. Chaque fois qu'il y a une mutation, il y a plein d'autres mutations simultanées pour rendre, justement, l'organe opérationnel. Et d'ailleurs, du coup, à tel point d'ailleurs que Darwin le remarquait, Darwin disait, si jamais on remarquait qu'il y avait plein de mutations simultanées qui s'organisent pour permettre à l'organe de résister, là, on pourrait dire que la part du hasard deviendrait improbable. Comment croire qu'une réalité aussi complexe que l'œil ait pu surgir simplement par l'action du hasard dans l'immense roulette qui constitue les mutations possibles du règne animal? Autant imaginer, pour reprendre Rousseau, c'est Rousseau qui dit cette métaphore célèbre, que l'Odyssée d'Homère puisse sortir d'un sac de lettres qu'on secourait et répandrait par terre. C'est possible, il faut beaucoup de lettres. Bon. Mais c'est quand même, avouez-le, extrêmement improbable. Et si on regarde un petit peu la probabilité pour que, par simple variation, complètement au hasard, tout se fasse en même temps, dans un même ordre, pour réussir à adapter un organe à une fonction, on a à peu près l'équivalent d'un sac qu'on agiterait, qu'on répandrait, en espérant avoir quelque chose de sensé, et même l'Odyssée, pourquoi pas. Donc voilà un peu le problème. C'est en tout cas ce que dit Bergson. On voit que tout se fait par saut, et même les variations au sein des espèces se font par saut, et non pas par variation infinitésimale, comme le disait Darwin. Donc Darwin, c'est faux. Est-ce qu'on y a pour autant renoncé? Non. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus darwinien, on est néo-darwinien. Et donc on va, et c'est toujours le même problème, c'est pour vous dire que c'est qu'une lutte sans arrêt, on va réussir, d'ailleurs on va réussir, à sauver Darwin en ajoutant d'autres choses. C'est-à-dire qu'il va falloir expliquer le fait que ces variations se font par saut, et on y arrivera. Par Prigogine, notamment, mais je ne vais pas vous expliquer tout Prigogine, parce que là, je vois que l'heure tourne, et par, notamment, la théorie des attracteurs. Bref, il y aura deux théories un peu complexes qui font référence à la théorie du chaos et qui essayent de dire pourquoi il est quand même possible d'imaginer que tout se fait par saut. Mais jusqu'où peut-on considérer que là, on n'a pas tordu les faits pour essayer de chasser la finalité? Est-ce qu'il ne serait pas parfois plus simple de considérer que il est peut-être préférable d'admettre une certaine forme de finalité au sein de la nature, parce que c'est ce qui nous semble qu'on a sous les yeux. Quand, effectivement, on peut, par des théories extrêmement complexes, chasser la finalité en recourant au hasard, mais à travers un degré d'improbabilité assez stupéfiant, prenez ces papillons qui ont sur les ailes des yeux de prédateurs tellement bien faits que même les prédateurs fuient. Ils ouvrent et déploient leurs ailes, pouf, on voit des yeux de prédateurs, c'est à s'y confondre. Même moi, j'ai failli avoir une crise cardiaque devant la télévision. Et les prédateurs s'enfuient. C'est possible par le hasard, mais c'est quand même hautement improbable. Quand on voit une infinité de choses incroyables, comme par exemple ces algues, enfin en fait ces poissons qui ressemblent tellement à des algues qu'il est impossible de les repérer parmi les algues, quand on voit énormément de choses, quand on voit l'homme, dans un sens, c'est possible. Mais jusqu'où est-ce improbable? Donc la question demeure aujourd'hui. Les néo-darwiniens disent, ne sera scientifique que ce qui obéit aux lois physiques. On peut chasser la finalité. Les néo-lamarckiens disent, il n'est pas même nécessaire de recourir à la religion. On ne peut sans mauvaise foi considérer qu'il y a quand même une adaptation, une finalité au sein de la nature. Alors, évidemment, il me reste très peu de temps, mais comme on a commencé 10 minutes plus tard, je me permets quand même de déborder un peu. Ça, c'était pour l'essentiel. Pour l'essentiel, j'ai envie de dire que... Donc, j'ai envie de répondre un peu à la question. Ça serait pas mal. Le vivant est-il objet de science? Bon, évidemment, on pourrait répondre, ça dépend. Je vais répondre deux choses. Je vais répondre que le vivant est bien objet de science, la question est de savoir si on peut admettre un degré ou un autre de finalité au sein de cette science. Et il me semble qu'il n'est pas totalement incompatible d'admettre une finalité naturelle au sein de la science, personnellement. Il me semble aussi qu'on peut tout à fait considérer que, pour être purement scientifique, le vivant ne doit plus faire exception, et qu'il fait exception tant qu'on ne comprend pas. Mais j'ai envie surtout d'insister sur un dernier point, c'est que, quand bien même le vivant serait une science, on n'est pas pour autant autorisé à faire n'importe quoi. Alors c'est le moment moralisateur, un petit peu, évidemment. C'est pour ça que je le mets toujours à la fin. Le moment moralisateur, c'est simplement la question, évidemment, bioéthique. Le vivant, on a tendance à penser que si on le connaît, on peut se servir. Alors, l'exemple critique, affreux, qu'on a souvent en tête par rapport à Darwin, c'est ce qu'on appelle, évidemment, le darwinisme social. Darwin social, qu'est-ce que c'est ? C'est un courant qui est apparu à la fin du 19e siècle et qui consistait à dire une chose très simple. Il y a des variations qui se font au sein des espèces. Les espèces sont favorisées par la nature quand elles sont adaptées à leur milieu. La nature fait un tri, sélection naturelle, mais elle le fait sur des millions d'années. Nous, on est des scientifiques, donc on connaît maintenant son fonctionnement, la nature, et si on accélérait un peu le travail de la nature ? C'est tout simple, vaste projet. La nature, elle met des millions d'années, elle est un peu lente, d'accord. Nous, on va reconnaître quelques gènes comme étant supérieurs, et on va se débarrasser de tous les gènes inférieurs. Mouvement qui, évidemment, amène directement à l'eugénisme, évidemment. Sous couvert de science, on ne peut pas pour autant avoir une réponse sur ce qu'on peut se permettre de faire avec le vivant. L'eugénisme abominable prôné par le darwinisme social n'avait aucun sens à deux titres. Déjà parce qu'on est bien incapable de dire quel gène mériterait d'être préservé, parce que c'est une question de mode. À ce moment-là, croyez-moi, les gens comme moi ne risquent pas de survivre très longtemps dans un système de darwinisme social. Je crois que les critères ne sont pas aux adultes qui font vaguement 1m60 et encore je suis gentil. Je crois que, globalement, si on suit un peu les modes, on n'aurait plus que des grands sportifs aux yeux bleus qui ne s'intéressent pas à la philosophie. Bon. Parce que la philosophie, c'est chiant. Dixit les élèves, hein, je n'en fais pas des darwinistes sociaux, bien sûr. Mais, oh, pas les miens, ils aiment bien. Mais, la philosophie, hein, parle darwinisme social, bon, ça devient complètement n'importe quoi. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, la science en elle-même ne peut que se questionner sur le comment et non pas sur le pourquoi. Et il me semble que là, c'est le centre même de ce qu'on pourrait dire. C'est-à-dire, quand bien même on a une science du vivant, quand bien même le vivant ne résiste pas à la science, et un jour, on réussira à expliquer par des simples lois physiques absolument tout le vivant. Et bien, quand bien même, ça ne nous dirait absolument pas ce qu'on a le droit de faire sur le vivant. Parce que la question de la moralité n'a rien à voir avec la science. Rien. Et ce qui est scandaleux, si vous me permettez réflexion personnelle, c'est que les comités d'éthique, de bioéthique, ont toujours été présidés par un scientifique. Un scientifique qui connaît bien la science, mais il n'est pas forcément plus moral que nous. Pourquoi c'est pas un philosophe, une fois de temps en temps ? Ou même un sociologue, ou même, je sais pas, un écrivain, ou ce que vous voulez. Puisque de toute façon, la science nous permet d'avancer très loin dans ce qu'on peut faire, mais ne nous dit absolument pas ce qu'on a l'autorisation ou ce qu'on doit faire. Un exemple qui me semble tout à fait lié, et ça sera le dernier, rassurez-vous, qui vient de Friends, une série que j'aime beaucoup, quand elle est regardée en VO sous-titrée, sinon les voix sont affreuses. Donc dans Friends, qu'est-ce qu'on a ? On a un passage assez drôle, mais finalement glaçant. L'un des personnages de Friends, c'est une bande d'amis new-yorkais trentenaires. Un des personnages s'appelle Monica, et dans un épisode assez drôle, décide qu'elle a maintenant 32 ans, elle n'a jamais rencontré un homme valable, les hommes ne sont pas vraiment valables, elle veut se faire inséminer, elle veut recourir à une banque de sperme, et elle a trouvé justement un dossier absolument merveilleux. Un dossier formidable, elle lit les critères et elle dit « Regardez, il est italien, il est beau, parce qu'il y a une photo, ou peut-être pas photo, une description physique, il est grand ». Il aime, signe particulier, vive les Knicks. Je sais plus comment on dit, enfin, c'est une équipe de basket. Et là, il est acteur, pardon, et il dit vive les. Bon, remplacé par votre équipe de basket préférée, vive les Knicks, je crois que c'est ça. Et là, il y a Joey, qui est un des garçons qui vit avec eux, qui dit yes, Knicks rules. Et là, elle se rend compte, à sa grande stupeur, que c'est le sperme de Joey. Il est italien, il est beau gosse, il est acteur, il est con comme un balai, mais on l'aime bien quand même, et il aime les Knicks. Donc c'est très drôle, et du coup elle est horrifiée, et elle se dit, mon Dieu, c'est comme si j'avais fait l'amour avec Joey, bref, rire enregistré, tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a de glaçant là-dedans ? Bah, c'est évidemment qu'aux États-Unis, vous donnez votre sperme, et vous remplissez une petite fiche pour dire si vous aimez les Knicks, si vous êtes grand, si vous êtes beau, si vous êtes acteur. Imaginez Moi, j'ai pas beaucoup de chance de donner une descendance. Il fait 1m60, il aime la philo, et il dit, allez Rousseau. Bon, oui, d'accord. Bon. Mais ça encore, c'est rien par rapport à la sélection qui se fait un peu sous le manteau du génome. Parce que pouvoir finalement choisir déjà son géniteur, finalement, c'est un peu comme reconnaître quelqu'un dans la rue, dans le sens. Chez nous, c'est anonyme. Qui est les critères ? C'est pas non plus glaçant. Ce qui est vraiment glaçant, c'est quand commence à apparaître cette possibilité, qui commence à être vaguement exploitée, même si elle est totalement interdite, de manifester. Alors, on peut intervenir sur le génome en cas de maladie absolument terrifiante. Mais on peut aussi faire en sorte que vous ayez enfin une fille, vous qui avez eu que des garçons et que vous vouliez une fille, ou un garçon, vous qui avez eu que des filles. On peut, du coup, on pourrait se dire que dans un futur proche, pas forcément si lointain que ça, on se dise, quitte à transformer un peu le génome de mon enfant et à faire en sorte que je puisse avoir un garçon, si vous pouviez sélectionner un garçon blond, parce que ça serait pas mal dans la famille, c'est rigolo, on est tous bruns. Bon. Ou alors, à la limite, ce serait pas mal d'en faire un aussi, etc. Bref, imaginez un peu l'horreur absolue. À partir du moment où vous pouvez sélectionner les critères, il y a évidemment un risque évident d'eugénisme. Donc le darwinisme social n'est pas si loin. Et donc, encore une fois, y a-t-il une science du vivant ? Eh bien, il y a une science qui permet d'expliquer beaucoup de choses du vivant, peut-être de réduire un peu certaines particularités à la physique, peut-être pas, mais en tout cas, il me semble que jamais, les décisions morales concernant le vivant ne pourront, elles, faire l'objet de science.